Vous écoutez On lit pour vous.
Découverte des plus anciennes cellules fossilisées sur Terre. Un texte de Pauline Gravel, paru le 29 novembre 2025 dans Le Devoir. Des cellules microbiennes datant de 3,45 milliards d'années ont été mises au jour dans des roches volcaniques d'Australie. Il ne s'agit pas seulement de simples traces de vie, mais bien des plus anciennes cellules fossilisées jamais découvertes à ce jour. La géologue Frances Westall, qui effectue ses recherches au Centre de biophysique moléculaire du Centre national de la recherche scientifique, CNRS, à Orling, a mis 25 ans avant de faire reconnaître son exceptionnelle découverte par la communauté scientifique. Un article publié en septembre 2025 dans la revue Nature Astronomy en décrit les détails. Tout commence dans les montagnes du Pilbara, en Australie, durant l'été 2000. Madame Westall recherche des traces de vie dans des roches reconnues comme étant parmi les plus vieilles sur Terre, puisqu'elles datent de 3,45 milliards d'années. Lorsque, de retour au laboratoire, elle étudie les échantillons de ces roches au microscope électronique à balayage, elle remarque de petites grappes de structures globulaires microscopiques mesurant moins d'un micromètre. Pour la chercheuse, qui a déjà fossilisé artificiellement des colonies de bactéries, ces structures ressemblent à s'y méprendre à ce qu'elle avait obtenu en laboratoire. Mais lorsqu'elle publie un premier article en 2006 sur cette découverte, les spécialistes du domaine l'ignorent complètement. Plusieurs disaient que c'était des artefacts, le résultat d'une contamination récente ou des structures minérales, mais absolument pas des bactéries, relate-t-elle lors d'une entrevue par visioconférence. Mais si j'avais contaminé la surface de l'échantillon, les faisceaux du microscope électronique à balayage auraient détruit complètement la matière organique et les bactéries récentes. Et des dépôts de minéraux sont complètement différents d'une colonie de microbes, réplique-t-elle. En 2011, elle publie un second article dans lequel elle a ajouté ces nouvelles informations. L'article est encore une fois reçu avec scepticisme, voire ignoré. Quand des personnes ayant du pouvoir dans le domaine ne veulent pas croire quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, il y avait aussi le fait que j'étais une femme et une chercheuse indépendante. Donc, tout ça était très frustrant, confie-t-elle avec dépit. Alors j'en ai eu marre d'être ignorée. Une nouvelle technologie à la rescousse. Convaincue de l'authenticité de sa découverte, Frances Westall ne se laisse pas abattre. Lors d'une soutenance de thèse à l'Université de Newcastle, en Angleterre, elle découvre le Cluster SIMS, une technique de spectrométrie de masse d'ions secondaires en cluster qui permet une analyse ultra-fine de la composition de la surface d'un échantillon avec une sensibilité et une résolution très élevées. Il lui faudra toutefois quelques années pour adapter l'optique de cet instrument à la taille microscopique des cellules fossilisées avec le fabricant Ionoptica. Sa patience et sa volonté portent leurs fruits, car l'instrument lui permet finalement de détecter des molécules organiques à l'intérieur des bactéries fossiles. Ces molécules comprennent les éléments critiques pour la vie que sont le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote, que les bactéries ont pu puiser dans l'eau de mer. Ces molécules sont dégradées et il en reste très peu car elles ont subi les assauts du temps pendant 3,5 milliards d'années. L'état de dégradation nous dit qu'elles ne sont pas récentes, mais très anciennes, souligne Mme Westall. De plus, ces molécules organiques sont silicifiées, c'est-à-dire couvertes d'une croûte de silice. À l'époque où ces bactéries sont mortes, elles se sont retrouvées dans une eau de mer très riche en silice, Ce dernier a imprégné ces cellules et précipité à leur surface, ainsi qu'à celle de la matière organique qu'elles contenaient, un phénomène associé à la fossilisation de micro-organismes, précise-t-elle. De multiples indices ont donc permis à Frances Westall de faire enfin reconnaître son extraordinaire découverte par l'ensemble de la communauté scientifique après 25 ans de travail. Parmi ces indices, il y a la morphologie sphérique des cellules, dont certaines sont en division, les molécules organiques dégradées que contiennent ces cellules, le regroupement de ces cellules en colonies, le typique polymère microbien qui enveloppe les colonies et la distribution particulière de ces petites colonies qui se trouvent associées à un substrat volcanique. La Terre primitive était très volcanique. Ces colonies se trouvaient à la surface de graines volcaniques et les bactéries qui les composaient étaient chimiolithotrophes, c'est-à-dire qu'elles obtenaient leur énergie et des nutriments, en l'occurrence du fer, du nickel, du cobalt, nécessaires pour leur métabolisme des graines volcaniques par des réactions d'oxydoréduction, explique Mme Westall. Selon Dominique Papineau, chercheur à l'Institute for Deep Sea Science and Engineering à Sanya, en Chine, Mme Westall et les membres de son équipe ont présenté un dossier solide constitué d'une collection d'indices indépendants. Ils ont utilisé des techniques micro-analytiques très sophistiquées qui n'étaient pas disponibles il y a 25 ans et qui leur ont permis d'obtenir de nouvelles données qui enrichissent et corroborent celles qu'ils avaient déjà publiées auparavant. M. Papineau a également été particulièrement intéressé par la solidité de l'argumentaire présenté pour soutenir qu'il s'agissait de micro-organismes chimiolithotrophes. Pour Frances Westall, l'histoire ne se termine pas là. Elle est même l'élément de départ d'une autre recherche, celle de vie ailleurs dans le système solaire. Car les bactéries fossiles retrouvées en Australie sont probablement très semblables aux formes de vie primitives qui ont pu émerger sur Mars il y a 4 milliards d'années, alors que la Terre et la planète rouge présentaient de nombreuses similarités. Pour cette raison, l'Agence spatiale européenne a sollicité sa collaboration pour la mission ExoMars, qui a pour objectif de rechercher des formes de vie passées ou présentes sur cette planète. C'était « Découverte des plus anciennes cellules fossilisées sur Terre », un texte de Pauline Gravel, paru le 29 novembre 2025 dans Le Devoir.
Cette table de noir qui a tout changé, un texte de Muriel Châtelier, paru le 8 décembre 2025 dans la presse. Dans un rapport publié en novembre 2025, le commissaire à la langue française, Benoît Dubreuil, soulève une inquiétude légitime. La forte concentration d'élèves issus de l'immigration dans certaines écoles de Montréal et de Laval réduit les occasions de contact interculturel avec le groupe majoritaire francophone. Muriel Châtelier est présidente de l'Association des Québécois unis contre le racialisme, AQUR. Ayant grandi principalement entourée de personnes issues de la même communauté haïtienne que moi, j'aimerais aujourd'hui témoigner de ces frontières ethno-culturelles qui ont été le principal frein à mon intégration. En tant que Québécoise, il m'est toujours étrange de parler de mon parcours d'intégration, car après tout, je suis née ici, à Montréal, et j'ai grandi au rythme de Passepartout, de Ouattatatao et des filles de Caleb. Cette réalité ne m'a pas empêchée d'avoir pris conscience un certain jour que je vivais peut-être dans un monde parallèle à celui de mes compatriotes qui n'étaient pas issus de l'immigration. La table qui m'a bouleversée. Ce jour-là, c'était celui de ma rentrée au collégial, au cégep de Rosemont, à la fin des années 1990. Comme beaucoup de jeunes ayant grandi dans un environnement fortement marqué par l'entre-soi culturel, je me suis retrouvée pour la première fois en infériorité numérique dans un établissement scolaire. Expérience déstabilisante s'il en est une. J'ai alors fait ce que beaucoup font instinctivement, j'ai cherché des yeux ceux que je considérais comme les miens. Dans mes cours, rien. J'étais la seule personne colorée. Mais il ne m'a pas fallu grand temps pour retrouver les miens. À l'heure du dîner, ils étaient tous attablés ensemble à la cafétéria. Une table de noir. Face à cette scène, des questions se sont mises à tourbillonner dans ma tête. La principale étant « Mais pourquoi ces noirs se tiennent-ils à l'écart de tous les autres ?» Cette forme d'auto-ségrégation m'a profondément troublée parce qu'elle rendait soudain tangible une réalité à laquelle je n'avais jamais été confrontée aussi directement, la distance qui existait entre eux et nous, et le fait que j'en faisais partie, que je le veuille ou non. Ce jour-là, cette frontière s'est matérialisée sous mes yeux, autour de cette table à laquelle je n'ai pas pu me joindre. Nulle statistique ne m'a été nécessaire pour comprendre que quelque chose clochait. Je n'ai pas eu besoin d'un rapport pour ressentir ce malaise. Vivre un choc culturel dans sa propre société est en soi une source d'éveil. Des frontières qui se construisent tôt. Avec le recul, je comprends mieux ce qui se jouait. Les recherches montrent que les jeunes issus de l'immigration tendent à se regrouper entre eux par affinité, par compréhension mutuelle, par partage de références communes, mais aussi parce que la relation avec le groupe majoritaire est souvent perçue comme distante, parfois intangible, parfois difficilement accessible. J'ajouterais à cela que l'environnement familial dans lequel on nous conditionne dès notre plus jeune âge à voir l'autre comme un adversaire, voire un ennemi, est un des facteurs qui contribuent à cette distance réelle. Je pense notamment à cette affirmation populaire, sans le moindre fondement scientifique, qu'on nous ressasse. Tu vas devoir travailler deux fois plus que le blanc pour réussir. Ce genre de discours, qui sous-entend que le succès est inaccessible sans sacrifice, hors norme pour les personnes autres que blanches, aura été beaucoup plus dommageable pour moi que n'importe quelle expérience de racisme. Le « nous contre le « eux ». Dans un texte publié récemment dans la presse et consacré au mot « identitaire », on pouvait lire « L'identitaire nourrit une conception guerrière des rapports culturels fondée sur l'existence de camps ennemis condamnés à se livrer bataille. L'identitaire doit toujours rappeler l'existence d'un « nous » et d'un « eux ». C'est cette opposition même qui le fait exister. » On attribuait visiblement cette vision à certaines personnes issues du groupe majoritaire francophone, mais selon mon expérience, c'est aussi la vision de certaines personnes issues de l'immigration. Le reconnaître n'est ni une accusation ni une condamnation. C'est un constat, un point de départ. Le problème survient lorsque ces frontières deviennent permanentes, normalisées, voire invisibles à force d'être tolérées, particulièrement grâce au multiculturalisme ambiant. Cette table de noir m'a forcé à me poser une question essentielle. Est-ce réellement ainsi que je souhaite vivre mon Québec? Dans une société où l'on cohabite sans réellement se rencontrer? où l'on partage un territoire, une langue et des institutions, sans parvenir à créer un véritable sentiment d'appartenance commun? Le rapport Dubreuil ne fait que mettre des mots sur ce que beaucoup observent déjà sur le terrain. Tant que nous refuserons de regarder ces frontières ethno-culturelles en face, sans les nier, sans les dramatiser, nous continuerons à confondre coexistence et vivre ensemble. L'enjeu n'est pas cette table de noir. L'enjeu, c'est ce qu'elle révèle, une difficulté à faire société tous ensemble. C'était « Cette table de noir qui a tout changé », un texte de Muriel Châtelier, paru le 8 décembre 2025 dans la presse.
Qui sont ces recrues qui rejoignent les forces chargées d'expulser les immigrants des États-Unis? Un texte de Sébastien Tanguy, paru le 3 décembre 2025 dans Le Devoir. L'une des promesses électorales cardinales de Donald Trump était de mener la plus grande opération de déportation intérieure de l'histoire américaine. La machine à expulser, une fois partie à toute vapeur, doit savoir arrêter 3 000 personnes par jour et en déporter 1 million d'autres par année. Mais avant que ce rêve ne devienne réalité, il faut d'abord garnir les rangs de la police douanière américaine, mieux connue par son acronyme ICE. L'organisation veut mobiliser plus de 14 000 nouvelles recrues d'ici janvier 2026 pour faire passer sa force de 21 500 agents à plus de 35 000. Le département de la sécurité intérieure ne lésine pas pour accomplir ce bond de 63 % à vitesse grand V. Oncle Sam, Superman et foire d'emploi dans les arénas du pays participent tous pour fournir de la main-d'œuvre au grand appareil d'expulsion voulu par le 47e président. Qui est toutefois volontaire pour joindre ces forces, souvent cagoulées, qui traque et menotte des immigrants dépeints en grands bandits entrés illégalement aux États-Unis en Criminal Aliens? Impossible d'obtenir un profil précis de la part d'ICE. Les sollicitations du devoir demeurent sans réponse encore à ce jour. Toutefois, en observant la campagne de recrutement déployée par l'organisation, il est possible de discerner quel groupe elle cherche à attirer en priorité dans ses rangs. Des jeunes, mais aussi des anciens de l'armée ou des forces de l'ordre. L'Amérique a été envahie par les criminels et les prédateurs. Nous avons besoin de toi pour les mettre dehors. Cette phrase coiffe la page de recrutement d'ICE sous le portrait d'un oncle Sam à l'air grave, qui promet des primes à l'embauche pouvant grimper jusqu'à 50 000 $ US et le remboursement de dettes d'études jusqu'à concurrence de 60 000 $ US. Ici, clairement, c'est la jeunesse qu'ICE tente d'attirer dans ses rangs avec ses offres alléchantes, d'autant qu'elles sont assorties d'une assurance maladie, d'un régime de retraite et d'autres avantages sociaux. Depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, ICE a d'ailleurs élargi l'âge requis pour joindre ses services. Autrefois, il fallait avoir au minimum 21 ans et au maximum 40 ans pour porter l'uniforme d'ICE. Désormais, tout citoyen de 18 ans ou plus peut s'y enrôler, et il n'existe plus d'âge maximum. Le département de la sécurité intérieure tente d'ailleurs d'attirer des anciens de l'armée et des forces de l'ordre dans les rangs d'ICE. En raison des politiques migratoires désastreuses du précédent gouvernement, les États-Unis appellent les vétérans à servir une autre fois, écrit ICE sur sa page de recrutement. C'est un moment charnière dans l'histoire de notre pays. Votre expérience et votre expertise répondent à un besoin vital, poursuit la publication. Là aussi, de généreux incitatifs financiers accompagnent un retour dans l'uniforme. Ce retour ne se fait d'ailleurs pas au sacrifice de leur pension. les vétérans qui reprennent du service continuent d'obtenir leur rente en plus de percevoir un salaire. Nouveauté mise en place par le gouvernement républicain. De grandes foires d'emploi se déroulent aux quatre coins du pays pour recruter des agents de l'immigration. Le New York Times en a visité une au Texas. En deux jours, quelque 3000 personnes ont franchi les portes du stade réservé pour l'occasion, dont de nombreux jeunes attirés par les incitatifs financiers proposés, a rapporté le journaliste Nicolas Nehamas. La campagne de recrutement massif mise en place par ICE et par le département de la sécurité intérieure utilise également une rhétorique et une facture visuelle particulière. Sur les réseaux sociaux, le service des douanes fouette le nationalisme américain autant qu'il multiplie les mèmes pour mettre de l'humour dans la plus grande opération de déportation jamais mise sur pied aux États-Unis. Déjà, le département de la sécurité intérieure célèbre à grands traits le recrutement de Dean Cain, le Superman de la série Lois and Clark, dans les rangs d'ICE. L'oncle Sam apparaît également fréquemment pour inviter à défendre la mère patrie et une gloire en perdition, accompagné d'illustrations qui brossent un portrait idyllique de la vie américaine. Entre ces publications qui galvanisent le patriotisme et dépeignent une Amérique majoritairement blanche, le département de la sécurité intérieure insère quelques blagues ici et là. Un voyage inoubliable vers n'importe où, sauf ici. Seulement sur Air Ice, raille une publication. Ici, illégalement, réservez votre billet aller vers la maison. Même E.T. savait quand le temps était venu de retourner à la maison. Avance une autre qui invite les illégaux à prendre des notes sur la démarche du célèbre extraterrestre. D'autres publications montrent des alligators affublés de l'uniforme des agents de déportation aux côtés de Donald Trump, à l'image d'une meute au service du président et de sa campagne de déportation. Aux États-Unis, certaines personnes craignent que cette iconographie, conjuguée à l'embauche massive de personnel, n'encourage des milices privées de droite, comme les Proud Boys, à infiltrer les rangs du service américain de l'immigration. C'était « Qui sont ces recrues qui rejoignent les forces chargées d'expulser les immigrants des États-Unis ?» Un texte de Sébastien Tanguay, paru le 3 décembre 2025 dans Le Devoir.
La responsabilité des influenceurs. Un texte de Marie Tison, paru le 31 décembre 2025 dans La Presse. De belles images, un message inspirant. Il suffit parfois d'une séduisante publication sur la page d'un influenceur pour amener les gens à concocter leur propre aventure en plein air. S'il s'agit d'inciter les gens à sortir de chez eux et à aller jouer dehors, c'est excellent. Mais si la publication a pour effet d'envoyer des gens mal préparés, mal équipés, dans des endroits potentiellement dangereux, c'est plus problématique. Je pense que les créateurs de contenu ont une responsabilité, mais on sait que l'éthique est variable d'un créateur à un autre. Reconnaît Dominique Arpin, animateur, auteur et conférencier, suivi par plus de 157 000 personnes sur les réseaux sociaux. De l'autre côté, il faut que les gens prennent aussi leurs responsabilités, ajoute-t-il. Il faut un minimum de connaissances, un minimum de recherche avant de s'aventurer. Récemment, Dominique Arpin a déclenché, bien malgré lui, une petite controverse sur les réseaux sociaux avec une publication sur une sortie au Mont Washington, dans le New Hampshire, ornée d'une très belle image d'un coucher de soleil. Dominique Arpin y raconte comment ses amis et lui ont bravé des rafales à plus de 100 km/h et un froid mordant pour atteindre le plus haut sommet du nord-est américain. J'ai fini mon texte avec une phrase qui disait « Qui n'ose rien n'a rien, alors osez ». C'est le mot « oser » qui a déclenché un débat sur les réseaux sociaux. Certaines personnes jugeaient qu'il était irresponsable d'inciter les gens à affronter le mont Washington, une montagne particulièrement dangereuse en raison de conditions climatiques extrêmes. Plus de 150 personnes y ont perdu la vie. Et chaque année, environ 25 personnes doivent être secourues, mettant en danger des secouristes souvent bénévoles. Certains sentiers sont particulièrement exigeants, surtout en hiver. Ils nécessitent de l'équipement d'alpinisme et les connaissances pour l'utiliser. C'était peut-être un peu maladroit, reconnaît Dominique Arpin, mais ce n'était tellement pas une publication pour encourager le monde à aller sur cette montagne-là sans préparation. Dès qu'il en a eu l'occasion, il a ajouté une note à la publication originale pour rappeler qu'il ne fallait pas prendre cette ascension à la légère. Il est important de s'informer sur les conditions météo et les risques d'avalanche avant de s'y aventurer, a-t-il écrit. Il faut également posséder le bon équipement et les bons vêtements. Une semaine plus tard, il a publié une vidéo qui montrait clairement la préparation qu'avait exigée l'ascension et l'équipement technique qui avait été nécessaire. Les gens qui me suivent, qui me connaissent, qui ont vu mes émissions, savent que je ne suis pas une tête brûlée qui encourage le monde à faire des niaiseries, déclare-t-il à la presse. Il explique qu'il s'intéresse de plus en plus à l'alpinisme, qu'il a un projet d'expédition au Népal et qu'il a donc suivi une formation en alpinisme pour s'y préparer. La sortie au Mont Washington servait donc à tester le matériel et les connaissances. « J'ai appris plein de choses, dit-il, autant sur la montagne que sur la façon dont on partage ces histoires-là en ligne. Toute cette controverse m'a fait réaliser qu'on a une responsabilité. J'en prends bonne note. » Si certains influenceurs encouragent les gens à sortir, un peu, de leur zone de confort, d'autres, au contraire, font des publications tellement dramatiques qu'une petite sortie au Mont-Saint-Hilaire ressemble à une expédition sur l'Everest. Ils mettent de l'avant le côté extrême, le côté défi, observe Dominique Arpin. Pour quelqu'un qui n'est jamais allé, c'est dur de se faire une idée sur ce qu'est la réalité. Mais en même temps, les gens ont la responsabilité de faire leur devoir, de faire des recherches sérieuses. René-Claude Bastien, guide d'aventure et coordonnatrice du programme de guide en tourisme d'aventure au Cégep de Saint-Laurent, se préoccupe au sujet d'un autre type d'influenceur, celui qui bénéficie de sa notoriété pour organiser des expéditions. Elle fait valoir qu'être guide, c'est un vrai métier qui nécessite des années de formation, des compétences techniques pointues, des responsabilités lourdes et assumées, et une capacité rare à porter le rêve des autres sans jamais imposer le sien. Je crois profondément qu'il y a une place pour chacun, à condition de respecter les métiers, affirme-t-elle. L'influenceur a une expertise réelle, celle de raconter, d'inspirer, de mobiliser. Le guide a une autre expertise, celle de planifier, d'anticiper les risques, d'intervenir en milieu naturel. Elle estime que lorsqu'un influenceur souhaite accompagner un groupe, il ne devrait pas se proclamer guide, mais se former ou encore collaborer avec un guide professionnel. Unissons les compétences, l'inspiration d'un côté, la sécurité et le cadre de l'autre. Ce n'est pas une question d'ego, mais de responsabilité. C'était « La responsabilité des influenceurs », un texte de Marie Tison, paru le 31 décembre 2025 dans la presse.